Réplique Charles Maurras et ses héritiers avec Olivier Dard et François Huguenin. Charles Maurras était tombé dans l'oubli. On ne trouvait ses livres que chez les bouquinistes. Cet inépuisable lutteur, comme dit Raoul Girardet, avait disparu du paysage intellectuel. Les luttes se poursuivaient sans qu'il soit fait référence à lui. Maurras n'est toujours pas réédité, mais il occupe à nouveau le devant de la scène. Au secours, Maurras revient, nous disent à l'unisson le journaliste Edoui Plenel, les sociologues Philippe Corcuff, Luc Boltanski, Arnaud Esquer et Renaud Dely, Pascal Blanchard, Claude Askolovitch, Yvan Gastel, les quatre auteurs de « Les années 30 sont de retour ». Tous ces intellectuels soulignent les similitudes entre le climat idéologique actuel et les thèmes agités par l'Action française, mouvement politique fondé en 98 et, comme l'écrit Corcuff, marqué sous l'influence de sa figure tutélaire, Charles Maurras, par une rhétorique monarchiste, nationaliste et antisémite. Cette analogie très insistante m'a donné envie d'aller y voir de plus près. Qui était, que pensait, que voulait ce Maurras dont on recense un peu partout la nombreuse descendance? Pour le savoir, j'ai invité Olivier Dard, auteur d'un Charles Maurras, et François Huguenin, qui a publié une histoire intellectuelle des droites et un essai sur l'Action française. Commençons, si vous le voulez bien, par le principe qui est au cœur de la doctrine. Qu'est-ce que le nationalisme intégral, Olivier Dard ?
Alors, je commencerai par vous répondre ce que n'est pas, justement, ce nationalisme intégral. Ce nationalisme intégral, ce n'est pas le césarisme. Le nationalisme intégral est une doctrine que Maurras mûrit pendant une bonne dizaine d'années, des années 1888-1889 jusqu'à l'affaire Dreyfus. Maurras est né en 1868, il a 20 ans à l'époque du boulangisme, un boulangisme qui voit le jeune Maurice Barrès s'imposer comme une figure marquante du nationalisme, c'est le thème de la terre et des morts, et Maurras, qui est un ami proche de Barrès, qui va le devenir, va, lui, de son côté, construire, face à l'échec du boulangisme, une réaction doctrinale. Alors, une réaction doctrinale qui emprunte plusieurs chemins. Premier élément important de ce nationalisme intégral, c'est de souligner qu'il procède d'abord d'une opposition radicale aux Lumières, à une forme de modernité, si vous voulez, pour privilégier l'Antiquité et le classicisme. C'est un premier élément important. La dimension esthétique de Maurras est essentielle. Deuxième élément important, c'est le souci de Maurras d'inscrire son projet dans une logique décentralisatrice et fédéraliste. L'histoire du maurrasisme est inséparable de ce qu'on appelle le mouvement du fait libre, du fait librige, la défense d'une forme d'identité provinciale et, par conséquent, le souci de construire et d'opposer à la France jacobine et républicaine une France décentralisée.
Qu'est-ce que ça veut dire, fait libre, exactement?
Le fait libre, si vous voulez, alors c'est un terme un petit peu compliqué, je m'excuse, c'est tout un mouvement, si vous voulez, culturel, de renaissance provençale, de défense de la langue provençale, qui avait notamment inspiré Frédéric Mistral, le poète bien connu, que Maurras, évidemment, a fréquenté de près. À propos donc de ce projet politique qui passe aussi, troisième volet important, par un souci de réforme de l'État qui passe par l'abolition de la République au profit de la monarchie. Alors une monarchie que Maurras entend voir comme une monarchie décentralisée, permettant justement à ce qu'il appelle le pays réel de s'imposer face à un pays légal, hein, ce sont deux concepts essentiels chez lui, un pays réel de s'imposer face à un pays légal qui est la République et qu'il considère comme profondément illégitime. Et pourquoi est-ce que la République est illégitime? C'est aussi parce que la République, elle est le produit de ce que Maurras appelle l'action néfaste de l'anti-France ou des quatre États confédérés, parmi lesquels on va retrouver, bien entendu, les Juifs, les francs-maçons et les métèques. Et les protestants aussi.
Juifs, francs-maçons, métèques, protestants.
Alors, protestants, c'est plus compliqué. Mais,
Sont les quatre États confédérés.
Voilà, ce sont les quatre États confédérés qui sont, dans l'esprit de Maurras, aux origines de la Révolution, aux origines de la République, et qui donc symbolisent ce qu'il appelle l'anti-France à travers la République, qui est le régime de la défaite, selon lui, et de l'affaiblissement national, quels que soient les projets à l'époque de colonisation que Maurras ne partage pas.
François Huguenin, qu'avez-vous ajouté ?
Peu de choses, car Liédard a été très complet. Peut-être préciser deux points. Le premier, c'est qu'il y a une maxime maurrassienne, ce que vous savez, il y a des maximes maurrassiennes qui sont des formules qui viennent dans un certain nombre de textes, soit des articles de journaux, car en réalité, beaucoup de textes de Maurras sont des articles de journaux qui sont à la fois des articles de penseurs, mais aussi qui héritent de la polémique quotidienne. Une des grandes maximes de Maurras s'appelle, c'est « autorité en haut, liberté en bas ». Très intéressante formule, qui veut dire deux choses. C'est assez polysémique comme expression. Autorité en haut, ça veut dire très clairement qu'il y a une critique de la démocratie moderne, issue de la Révolution, comme étant incapable d'assumer l'autorité. Or, il y a cette idée chez Maurras, et chez ses héritiers d'ailleurs, Thierry Molnier en parle très bien dans les années 30, que la nation française n'est pas une entité géographique comme par exemple peut l'être l'Angleterre, qu'elle n'est pas une entité linguistique comme peut l'être par exemple l'Allemagne, parce que la France a mis très longtemps avant d'être une unité linguistique. C'est une unité politique qui a été faite par les rois. Et alors c'est là où on retrouve une autre formule qui est moins intellectuelle qu'autorité en haut, liberté en bas. C'est la formule du chant des camelots du roi qui s'appelle La Royale. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Donc il y a vraiment cette croyance profonde que sans la monarchie, la France ne peut que se défaire. Et parallèlement, il y a cette idée qui, moi, m'intéresse beaucoup, car elle est pour moi une des problématiques essentielles de la pensée maurrassienne, c'est que les libertés sont en bas. C'est-à-dire que pour Maurras, il n'y a pas de liberté politique au singulier. Et c'est là où je trouve qu'il est une sorte d'hérétique par rapport à sa filiation grecque revendiquée. Mais que les libertés sont les libertés concrètes, on va dire régionales, provinciales, dans le travail. Et qu'en réalité, il y a une expulsion de la notion de liberté du champ de la politique.
Chez Maurras,
pour la renvoyer dans la société. Donc il y a une inconscience de ce que la politique moderne a réfléchi sur l'importance de la liberté politique. Et il y a même une sorte de déni tout à fait surprenant du fait que la démocratie grecque repose quand même sur l'idée que la communauté des citoyens est composé de citoyens libres qui peuvent discuter ensemble d'un projet politique pour la cité.
Ça, ce n'est évidemment pas ce qui intéresse Maurras, mais vous insistez beaucoup, François Huguenin, sur le caractère décentralisateur de la monarchie selon Maurras. Donc, cette décentralisation, c'est par l'entremise de cette décentralisation que les libertés concrètes, les libertés sociales peuvent s'exercer.
Voilà, et Maurras dit, la République a centralisé, en oubliant que la monarchie commencé à le faire.
Oui.
D'une certaine manière, c'est qu'il y a beaucoup de discussions historiques, on ne va pas rentrer là-dedans dans le détail pour savoir en quelle mesure la thèse de Tocqueville sur la centralisation de l'Ancien Régime est juste ou pas, mais elle est en partie vraie. Donc ça, Maurras l'oublie, il y a un oubli de l'histoire qui est assez saisissant. Donc pour lui, seule la monarchie pourra décentraliser, puisque seul le roi, qui ne sera pas menacé dans son pouvoir par le mécanisme électoral de la démocratie, pourra décentraliser sans atteindre à son identité de souverain.
Moi, j'ai sous les yeux le livre d'entretien absolument passionnant entre Raoul Girardet et Pierre Assouline, singulièrement libre. Raoul Girardet a été camelot du roi. Il a choisi, lui, et nous reviendrons sur ce moment particulier du maurrassisme, la voie de la résistance en 1940. Mais il dit l'importance pour lui de Maurras, l'importance de la critique de la démocratie parlementaire, critique puissante, parce qu'elle correspondait aux tristes réalités de la Troisième République finissante. Reste que, dit-il, lorsque Maurras prêche la restauration d'une monarchie décentralisée et antiparlementaire, il se situe en dehors de l'histoire. La monarchie française s'est toujours voulue centralisatrice. En effet, c'est la thèse de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Et ajoute Girardet, c'est sous la forme constitutionnelle et parlementaire que depuis 1790, elle a recherché les conditions de sa survie. Donc, il fait appel à un modèle historique, mais qui ne correspond à aucune réalité historique. Olivier Dard.
Sur ce qu'a dit François Huguenin, je suis entièrement d'accord. Simplement, j'ajouterai deux choses, justement, par rapport à la question du nationalisme intégral et à cette question de la décentralisation. Première chose, c'est que à travers ce nationalisme intégral et à travers, effectivement, ce rapport notamment aux provinces ou à l'identité communale, il s'agit, pour reprendre là aussi une formule bien connue, de prendre le nationalisme à sa source. Et le nationalisme à sa source, on parlait de la question du fait libre tout à l'heure, c'est aussi l'importance de la langue, c'est aussi l'importance de la langue d'oc. Et pour Maurras, la défense des langues locales est effectivement quelque chose d'essentiel. Cela étant, dans ce débat sur centralisation-décentralisation, effectivement, François Huguenin a raison de dire que la monarchie est très largement centralisée, mais Maurras est en même temps tout à fait dans l'air du temps, dans les années 1890 et 1900, lorsqu'il pose cette question, parce qu'au sein même des Républicains, il y a héritier du gironisme et des Girondins, un courant décentralisateur qui permet d'ailleurs à Maurras de peser dans le débat public et on a oublié depuis l'importance de la controverse qui l'oppose d'ailleurs sans réellement l'opposer à une des figures républicaines d'alors qui est Joseph-Paul Boncour, qui, avec lequel il dialogue, on est juste avant le premier conflit mondial, pour justement proposer un projet décentralisateur. Donc si vous voulez, effectivement, il y a chez lui un rapport à l'histoire qui est un rapport à la fois très compliqué et d'ignorance, c'est-à-dire que Maurras ignore souvent l'histoire, mais à ce moment-là...
Il ignore l'histoire dont il se réclame, en plus.
C'est-à-dire que, au fond, il a sur l'histoire des sur le travail des historiens dont je suis des propos un peu évidemment blessants pour les historiens en considérant qu'au fond l'histoire ne sert à rien du point de vue de l'érudition, etc., etc. Elle ne sert que si elle peut enseigner un certain nombre de choses. Et il est évident que Maurras, quand il va articuler son discours politique sur l'histoire, va aller chercher dans l'histoire évidemment les exemples.
Ce dont il a besoin,
bien entendu.
Oui.
Il n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est à noter.
Alors Olivier Dard aussi, nationalisme intégral, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas, il n'y a rien au-dessus de la nation. C'est aussi ça son opposition aux Lumières, c'est-à-dire nous ne nous laissons pas intoxiquer par les valeurs universelles. Ce slogan aussi qui parcourait nous ne sommes pas des, l'Action française, nous ne sommes pas des gens moraux. Notre morale, c'est la défense de la nation, et ça donnera un peu plus tard la France seule, non Olivier?
Oui, alors c'est pas du tout pour... en ce sens que il ne faut pas non plus imaginer et considérer Maurras au fond comme quelqu'un d'enfermé sur le cadre spécifiquement français. La France de Maurras, c'est d'abord l'héritage de la romanité. Et je voudrais ici citer un texte tout à fait emblématique de Maurras qui figure dans le dilemme de Marc Sangnier sur le thème « Je suis romain ».
Ah, vous le citez dans votre livre.
Je le cite absolument. Et je citerai simplement la dernière formule. Il dit romain, il ne dit pas je suis français. Hein. Il termine « Je suis romain, je suis humain », deux propositions identiques. Et je dirais qu'il y a chez Maurras au fond, à travers l'identité qui est la sienne, effectivement une identité française, mais l'idée que la France est aussi le produit d'une histoire et d'une construction qui passe par l'Antiquité, une Antiquité idéalisée à certains égards, comme le disait tout à l'heure François Huguenin, avec la Grèce, bien sûr.
Et aussi.
Le voyage de Maurras à Athènes est quelque chose d'essentiel. En 1896, son rapport et ses reportages sur les Jeux Olympiques, il a été reporter, n'ont rien à voir avec le sport ou peu à voir, mais sont un formidable texte politique et en apprennent évidemment beaucoup sur lui, y compris dans la correspondance qu'il a d'ailleurs avec son frère à l'époque. Et j'ajouterais que son rapport à Rome est absolument essentiel, car la romanité est pour Maurras ce qui définit la France à l'heure où, à l'époque, on discute sur les origines de la France et où émergent d'autres interprétations qui tentent à privilégier la part des Gaulois, si vous voulez.
Oui, je suis romain, je suis humain. Mais évidemment, il y a des gens qui, selon lui, ne font pas tout à fait partie de la même humanité. Venons-en maintenant à l'affaire Dreyfus, qui a joué un rôle considérable dans la constitution même de l'Action française et dans la pensée politique de Charles Maurras. Alors, quelle a été l'attitude de Maurras pendant l'affaire Dreyfus Et quelles leçons en a-t-il tiré, François Huguenin ?
Est-ce que vous me permettez de revenir deux secondes sur le thème précédent, juste pour dire, parce que c'est une transition. Il y a beaucoup de contradictions chez Maurras. Et par exemple, dans son rapport entre le nationalisme et l'universel, il y a une contradiction. On trouve chez Maurras des textes qui expriment que la nation ne doit pas être absolutisée et que le fait que moi, je suis français, est ma porte d'entrée vers l'universel. Et on retrouve aussi des textes où il, pour lui, la France est une déesse et ça mène à cette espèce de France seule, un peu autiste que l'on trouve, même complètement autiste que l'on trouve pendant la guerre. Pourquoi je dis ce mot de contradiction ? Parce qu'en réalité, la position maurrassienne de Maurras pendant l'affaire Dreyfus est également assez contradictoire. Il est évident que l'action française est du côté des anti-Dreyfusards, comme beaucoup d'autres au demeurant, et que le pauvre capitaine Dreyfus ne fait preuve d'aucune compassion, et au contraire de charges absolument féroces qui, à la relecture, sont particulièrement détestables. Et en même temps, il y a une sorte d'instrumentalisation de cette affaire Dreyfus par Maurras, puisqu'il dit très explicitement qu'au fond, ce qui l'intéresse dans l'affaire Dreyfus, c'est pas tant même la question juive, nous y viendrons tout à l'heure, peut-être plus, c'est le fait que pour lui, l'affaire Dreyfus est la première idée, enfin, l'anti-dreyfusisme est la première idée contre-révolutionnaire, dit-il, qui puisse être mise en action pour, au fond, amener la défaite de la République tellement honnie. Donc, en réalité, c'est l'idée de se saisir de cette affaire pour montrer, je dirais, que la République est contre l'armée, est contre la France, est anti-nationale. Donc, c'est assez étonnant. Et d'autres autres points très étonnants, c'est que, durant cette période de l'affaire Dreyfus, en 1999, se crée la Revue d'Action Française.
Oui, c'est ça.
Et au début de la Revue d'Action Française, il y a énormément de textes très antisémites par un certain nombre d'auteurs, totalement oubliés de l'histoire des idées et à juste titre, comme Jules Souris, comme De Mailly, comme un certain Copelin-Cortenberg, vous ne connaissez pas leur nom et ça n'a aucune importance, mais qui ont des propos d'un antisémitisme féroce. Maurras, lui, met de côté, pendant cette période-là, l'antisémitisme dans ses articles, et culmine dans la première Revue d'Action Française une grande étude sur les monos pour fustiger l'État protestant. Et là, on se dit, mais à quoi joue Maurras ? Et en réalité, on voit bien que, à ce moment-là, en tout cas, le fait que Dreyfus soit juif ou pas n'est pas tellement important pour lui. Ça n'enlève pas son antisémitisme, on y reviendra après. Ce qui est important pour lui, c'est de montrer que la République est colonisée par ce qu'il appelle les États dans l'État, les quatre États confédérés. Donc en réalité, la position de Maurras dans l'affaire Dreyfus est une position totalement opportuniste. Il sent qu'il y a là un levier de puissance politique et il joue là-dessus de manière assez cynique.
Oui, et en même temps, il dit aussi... Les Juifs ne sont pas des particuliers semblables aux autres, citoyens et familles. Ils forment dans l'État un État qui espère dominer l'autre. D'où la nécessité, même pour que l'Europe redevienne catholique, de soumettre les Israélites à des traitements spéciaux.
Oui, alors pareil que François Huguenin tout à l'heure, je compléterai juste sur un point ce qu'il a dit à propos de l'affaire Dreyfus, pour souligner aussi que se joue au moment de l'affaire Dreyfus la place de Maurras dans le dispositif du nationalisme français. Et Maurras, au fond, considère que les anciens, ou ceux qu'il considère comme les anciens, les Déroulède, les Lemaître, etc., n'ont pas su prendre, au fond, occuper la place que cette affaire permettrait ou devrait permettre d'occuper au nationalisme français, ce qui le conduit, lui, à prendre des positions maximalistes, en particulier en défendant Esterhazy, Le Faux, etc., avec un texte extrêmement célèbre dont je parle dans l'ouvrage qui s'appelle « Le premier sang », hein, qui est extrêmement intéressant, car Maurras, comme il l'avait fait d'ailleurs dans l'affaire du Fait Libre, se place toujours
à la marge, dans la partie, dans un positionnement le plus dur, le plus radical, pour entraîner à lui, sur des bases radicales, les éléments les plus jeunes. Alors, sur la question, effectivement, de l'antisémitisme, Maurras professe un antisémitisme qui est tout à fait, d'ailleurs, dans l'air du temps, et en particulier des milieux qu'il fréquente depuis les années boulangistes. On ne reviendra pas sur l'importance de la France juive de Drumont, mais je soulignerai en même temps, et peut-être surtout, l'importance aussi que Maurras accorde à l'antisémitisme comme facteur de mobilisation, et ce, avant l'affaire Dreyfus, notamment au moment où il est engagé avec Barrès dans la cocarde. Car il y a aussi dans l'antisémitisme, bon, il y a la question de l'affaire Dreyfus, bien sûr, tout ce que a dit François Huguenin sur le problème des quatre États confédérés. Il y a aussi dans l'antisémitisme maurrassien une dimension économique et sociale qui ne doit nullement être négligée. La question juive, c'est aussi le poids de la finance, le poids des Rothschild, etc., etc. Ce sont des choses que l'on retrouve évidemment ailleurs, mais et que l'on va retrouver chez d'autres, à l'Action française, notamment Georges Valois, l'homme contre l'argent, comme Valois s'est appelé par la suite, mais qui compte dans le discours maurrassien.
François Huguenin, vous voulez ajouter quelque chose ?
Sur l'antisémitisme, peut-être. Je trouve qu'il y a une chose très importante, parce que c'est là aussi un des points les plus complexes et les plus ambigus de la pensée maurrassienne. Maurras a toujours maintenu une sorte d'antisémitisme comme une des bases continues de son discours, alors que dans l'Action française, certains ne l'étaient pas du tout. Jacques Bainville, par exemple.
Oui, voilà.
Il n'y a pas d'antisémitisme chez Bainville, très curieusement. Chez Daudet, il y en a beaucoup.
Beaucoup.
Chez Bainville, il n'y en a pas. Mais Maurras a toujours gardé ce discours. En même temps, Maurras a toujours dit, et le catéchisme d'Action française a toujours proclamé, l'antisémitisme de maurrassien est un antisémitisme d'État
et non pas un
antisémitisme de peau ou de race. Alors, c'est là où j'ai essayé, moi, d'analyser cette question dont j'ai assez vite senti qu'elle était ambiguë et qui m'a mis très mal à l'aise, parce que, en réalité, il y a une profonde, presque une supercherie, je dirais, parce que cet antisémitisme d'État, normalement, si l'on suit la doxa maurrassienne, devrait être réglé par la monarchie, puisque le pouvoir royal, normalement, interdit aux États dans l'État de se livrer à leur lutte passionnée pour la domination. Donc, si les Juifs sont un État dans l'État comme les autres, d'une certaine manière, les maurrassiens devraient se cantonner à dire, comme ils le disent par ailleurs, restaurons la monarchie et il n'y a pas de problème juif. Or, il y a un problème juif qu'on retrouve notamment chez des juifs d'Action française, avec cette idée qu'un juif d'Action française qui s'appelle René Gross a popularisé au sein des milieux royalistes, c'est l'idée de juif bien-né. Alors, vous avez des juifs bien-nés et des juifs mal-nés. On voit bien derrière ça qu'en réalité, il reste un problème juif, et il y a une lettre très intéressante du jeune Maurras à un de ses amis, René de Saint-Pons, quand il vit à Aix, où il lui dit, ce qui est une totale contradiction, mais ce qui est très intéressant pour comprendre Maurras, je peux avoir des amitiés juives, mais jamais je n'accepterai des juifs parmi nous parmi notre groupe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie, là, chez Maurras. Je peux avoir des amitiés juives sans aucun problème, mais les juifs sont dangereux dans un groupe, parce qu'ils veulent le pouvoir, et donc dans le groupe qui est la France, qui est la nation française, ils sont un danger en tant que juif. C'est pour ça que moi je trouve que cette distinction d'antisémitisme d'État et de peau ne tient pas.
Ça ne fonctionne pas. Alors justement, crevons l'abcès, parce que l'antisémitisme de Maurras ne se démentira jamais. De Blum, il écrira que voilà un homme à fusiller, mais dans le dos. Et puis, pendant la guerre, il s'étonnera que l'on puisse pincer en faveur d'Israël toutes les cordes d'une compassion injustifiée. À son procès, il dira même, quant à dire, comme vous le faites, monsieur le président, et il s'adresse au magistrat, qu'en février 1944, désigner un juif à l'attention publique, c'était le désigner lui ou sa famille aux représailles de l'occupant, à la spoliation et au camp de concentration, peut-être à la torture et à la mort, ce qu'il avait fait avec le père de Roger Stéphane. Non seulement j'ignorais ces belles choses, mais je savais le contraire, qu'il y avait une foule de pays dans lesquels les colonies juives étaient florissantes. Il s'est réjoui en 1940 du statut des juifs, siècle, car celui-ci correspondait au droit absolu de faire nos conditions aux nomades que nous recevons sous nos toits. Donc tout cela est accablant. Et là, je voudrais en venir à une des choses qui me paraissent essentielles. Vous avez, François Huguenin, écrit un livre, enfin c'était le premier titre, intitulé « Le conservatisme impossible ». Et là, je m'adresse à vous deux. Parce que qu'est-ce que le conservatisme ? C'est ce que Ortega y Gasset, dans La révolte des masses, appelle le droit fondamental de l'homme à la continuité. L'homme n'est jamais un premier homme. Il ne peut commencer à vivre qu'à partir d'un certain niveau de passé accumulé. Ce droit à la continuité est mis en péril aujourd'hui. Le think tank du Parti Socialiste s'appelle Terra Nova, le principal think tank. Et Olivier Rey m'avait fait remarquer qu'on aurait plutôt besoin d'un think tank Terra Perennis, un peu de permanence. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la mesure où, avec Maurras, le conservatisme a pris ce visage-là, le visage de la haine, eh bien, oui, on ne sait pas, on ne peut pas être conservateur. Est-ce que ce n'est pas la faute de Maurras si, en France, aujourd'hui, le conservatisme est impossible ? Voilà, la question, je la pose à tous les deux.
Oui, moi, je peux essayer de répondre à cette question qui est très, très compliquée. Donc, je vais dire ce que je ressens. Et je pense que, là aussi, il y a quelque chose de paradoxal. D'une certaine manière, Maurras a réussi à cristalliser autour de lui des intelligences, des écrivains, quelque chose que, normalement, cette droite-là n'aurait pas pu faire sans lui. Il y a eu une sorte de cristallisation autour de lui qui a été tout à fait exceptionnelle et qui tient vraisemblablement à son pouvoir personnel de fascination. Il ne faut pas oublier que, par exemple, quand il a fait l'enquête sur la monarchie, il est allé voir un par un chaque personne pour les retourner une après une, pour les convertir à la monarchie, qui était quand même quelque chose de profondément passéiste dans l'histoire, dans l'esprit du temps. Et il le doit, alors qu'il est sourd et qu'il n'entend pas, il le doit à sa capacité de fascination. Donc, d'une certaine manière, si une certaine pensée de droite a été si florissante au XXe siècle, c'est bien grâce à lui. Et en même temps, effectivement, si cette pensée n'a pas d'héritage, si du coup sa fécondité est aujourd'hui proche de zéro, me semble-t-il, c'est parce que effectivement il y a plus encore que ce choix absurde du maréchalisme jusqu'au bout, ce choix de ce poison antisémite qui, d'une certaine manière, imbibe tout le reste et avec lequel il est très difficile de se défaire. Donc je crois qu'effectivement c'est un véritable problème et à mon avis. La question est que Maurras est un penseur, un intellectuel, qui a voulu, parce qu'il était fasciné par ça, faire de la politique et agir, et qui a agi, je dirais, d'une certaine manière, hors sol. Hors sol, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, je pense que Maurras pensait que ce qu'il disait sur les Juifs n'avait aucune importance. Au fond, il était totalement déconnecté des réalités.
Oui, il était déconnecté des réalités.
Totalement.
Mais alors, je vais poser la question autrement. Maurras, disons, voyait dans la République un régime de division. Il voulait revenir à l'unité. Et bien que Pascal fût son adversaire privilégié, il avait en lui l'idée pascalienne que les plus grands maux, c'est la guerre civile. Mais n'a-t-il pas été, tout au long de sa carrière d'intellectuel politique, un homme de guerre civile ? Parce qu'après tout, les quatre états confédérés, c'est de cela qu'il s'agit. Et ses positions pendant la guerre, son maréchalisme, la divine surprise qui n'est pas la défaite, mais qui est l'arrivée de Pétain, l'idée qu'enfin, voilà, la République s'effondre, c'est que tout d'un coup, l'effondrement de la République est plus, enfin, la chute, la fin de la République est plus importante que l'occupation elle-même. Peut-être que l'occupation est un événement malheureux, mais la chute de la République est un événement tellement heureux qu'on oublie l'occupation et qu'on peut continuer à régler leurs comptes aux adversaires, car il y a les Juifs, mais il y a aussi les communistes, il y a les gaullistes, il y a son antipathie forcenée à l'égard de la résistance, son appel à la constitution ou d'otages. Il demande des otages, que des otages otages soient pris et exécutés en réponse aux actions de la résistance. Donc il a poussé l'esprit de guerre civile jusqu'au bout. N'est-ce pas cela la contradiction majeure de Maurras, Olivier Dard ?
Alors, je voudrais d'abord revenir sur la question d'un mot du conservatisme. Je ne suis pas sûr du tout que Maurras soit un conservateur. Parce que conservateur, pour conserver quoi ? Et effectivement, dans son esprit, si vous voulez, depuis la Révolution, il n'y a plus grand-chose à conserver. Donc, de ce point de vue, je crois que...
C'est un réactionnaire, plutôt.
Oui, bien
oui,
sûr.
C'est plus un réactionnaire. Oui.
C'est un réactionnaire, c'est un traditionnaliste. À mon sens, beaucoup plus qu'un conservateur. Même si, par rapport au traditionnalisme, on pourrait là encore discuter sur un certain nombre de ses prises de position. Homme de guerre civile, oui et non. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, car vous parliez de la Deuxième Guerre mondiale, moi je voudrais parler de la Première. Et pendant la Première Guerre mondiale, Maurras est dans une position tout à fait particulière, puisqu'il a fait campagne avant la guerre sur le thème, au fond, d'une incapacité de la République à conduire et à gagner la guerre. Campagne qui lui a d'ailleurs valu un livre en réponse extrêmement intéressant du socialiste Marcel Samba, « Faites un roi ou faites la paix », où Samba concluait en disant que finalement, lui qui était socialiste souhaitait la paix, mais que s'il devait y avoir la guerre, la République n'était peut-être pas le régime effectivement le mieux adapté pour la conduire. Cela étant, la guerre déclenchée, Maurras participe pleinement de l'Union sacrée. Et non seulement il participe pleinement de l'Union sacrée, mais il va mettre ce qu'il appelle toute son intelligence au service de ce qu'il appelle une influence utile. Une influence utile qui va lui le conduire, alors effectivement, à fustiger un certain nombre d'ennemis, y compris d'ennemis de l'intérieur, le clan des Yas, Caillot, Malvy, etc. Mais en même temps, à appuyer, et de quelle façon, l'Action française surtout, le gouvernement Clémenceau, et par conséquent à participer, si vous voulez, d'un certain point de vue de la mobilisation, de la victoire, etc. Avec, cela étant, cette erreur, évidemment, que quand même Maurras, c'est-à-dire qu'au fond, il considère que la victoire, c'est pas celle de la République, c'est celle de la France, que c'est la France de toujours, la France, le pays réel qui l'emporte face à un pays légal qui n'aurait pas pu l'emporter si ce pays réel n'avait pas existé. Et au lendemain de la guerre, évidemment, il reprend le combat tel qu'il était. Cela étant, par rapport à ce que vous dites et par rapport à la question de la guerre civile, je crois qu'il y a un élément qui est très important à comprendre chez Maurras, c'est que c'est un homme des catégories. Par rapport aux individus, je crois que c'est très important de voir la façon dont il raisonne. Il raisonne par catégorie, plus que par individu. Et deuxièmement, c'est un homme des commencements, qui recommence toujours le raisonnement par où il l'a débuté. C'est-à-dire que, et vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, c'est extrêmement intéressant de lire Maurras pendant la guerre, parce qu'il y a aussi un décalage terrible entre ce qui est en train de se jouer et ce que lui écrit, notamment quant à la façon dont il voit la Révolution nationale. Révolution nationale qu'il veut voir, au fond, ou qu'il essaye de voir à son image. Alors, il est en même temps très ennuyé, parce que d'un côté, effectivement, il y a chez lui toute cette partie critique, violente, etc., dont vous parlez, effectivement, mais il y a aussi un homme extrêmement mal à l'aise, comme il l'était d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, dans la position du soutien. C'est quelqu'un qui est très mal à l'aise dans la position du soutien.
Oui, mais justement, comment se fait-il qu'il ait soutenu un gouvernement républicain face à l'invasion allemande, puisque la guerre se déroulait en territoire français, et qu'il ait soutenu le maréchal Pétain, qui lui-même avait engagé la France dans une politique de collaboration, alors que sa germanophobie n'avait pas baissé d'intensité. Et que s'est-il passé chez Maurras pour qu'il y ait eu une telle contradiction avec l'attitude adoptée par lui et par l'Action française en 1914.
Vous mettez le point à travers la collaboration et Montoire sur un élément absolument essentiel. C'est-à-dire que sous l'occupation, Maurras est un pétainiste, c'est incontestable. En même temps, il n'est ni collaborateur, ni germanophile. Mais en même temps, c'est un pétainiste de choc. Alors, par rapport à Montoire, ce qui est très frappant, moi j'ai relu vraiment tout ça de très très près, c'est qu'en fait, on attendrait chez lui, au fond, un commentaire. Et on ne le voit jamais venir. Au fond, il considère qu'il remet dans la personne du maréchal Pétain, et à chez lui, dans sa relation à Pétain, quelque chose de tout à fait particulier. Pétain, alors, jouant un peu le rôle, ou étant censé peut-être jouer le rôle d'un monk, mais d'un monk quand même très hypothétique, parce que jusqu'à nouvel ordre, Pétain n'a jamais été monarchiste. Et finalement, Maurras à la fois à travers ses positions, évidemment, surprend un certain nombre de ses anciens soutiens. On pense en particulier à Daniel Cordier et à un certain nombre d'autres hein, qui ont rompu à ce moment-là avec l'Action française.
Oui, il était jeune, mais Girardet, par exemple.
Girardet. Et on dispose de toute une série de témoignages de gens qui vont le voir, qui vont voir le maître à Lyon et qui essayent de le convaincre, surtout après 42, parce que là encore, il faut évidemment remettre tout ça en perspective. Mais après 42, effectivement, il est dans une position où, en même temps, il est profondément isolé. Quelle est son influence réelle? Bon, on en a fait, et après la guerre, les résistants et ses adversaires en ont fait le chef d'orchestre de la Révolution nationale. L'espèce d'éminence grise, je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup relativiser tout cela. Le pouvoir de l'Action française et l'influence de l'Action française à Vichy ne sont nullement celles mêmes que Maurras s'imagine, me semble-t-il. Hein. La dynamique du pouvoir à Vichy, elle n'est pas là. Le maréchal Pétain n'est pas maurrassien et beaucoup de dirigeants de Vichy ne le sont pas non plus. Maintenant, ça ne change rien, effectivement, au fait que Maurras, jusqu'au bout, effectivement, défend le régime. En particulier lors de son procès, où, alors n'oubliez pas qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui manie l'art de la provocation avec un certain goût et un certain plaisir, qui se présente avec la Francisque et qui commence à invectiver le procureur en lui disant « vous, je ne vous raterai pas ». Bon, évidemment, le jour d'un procès, ça... Bon. Et heureusement, et je fais une petite... les sujets sont graves, mais je fais une petite incise. Heureusement, me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'en pense François Huguenin, que Maurras n'a pas entendu, parce qu'il était vraiment... Alors là, à ce moment-là, il était quand même complètement sourd, la plaidoirie de son avocat, qui, en bon avocat, a essayé d'arranger un peu les affaires de son accusé pour lui éviter la peine de mort, parce que je pense que, sinon, Maurras aurait été absolument furieux de cette plaidoirie qui se voulait habile, professionnelle, mais qui ne correspondait pas à la lutte frontale qu'il entendait continuer à mener et qui était effectivement en
et
décalage
on connaît
avec
sa phrase au moment de son procès, c'est la revanche de Dreyfus.
Bien sûr,
quand même. La boucle est bouclée. Mais là, nous sommes encore dans cette ambiance de guerre civile. Lors du débarquement du 6 juin 1944, Maurras et son journal parlent d'invasion, condamnent les envahisseurs. Il a cette phrase en juin 1944. Sur les arrière-pensées des Anglais-Américains, car enfin, si ce n'est pas pour prendre ce qui n'est pas à eux, que diable serait-il venu faire chez nous le 6 juin ? Et Boutang, dans son immense livre sur Maurras, La destinée et l'œuvre, Pierre Boutang, son disciple, eh bien, il cite un article qui, même pour lui, ne passe pas, qu'il juge intenable. « Un pays, dit Maurras, où les assassins peuvent procéder avec ce sans-gêne, s'habiller en gendarmes pour abattre des blessés dans les hôpitaux, les assassins sont les résistants, et aller ensuite tuer d'autres gendarmes dans leur gendarmerie, est un pays où doivent habiter quelques communistes, quelques juifs et quelques gaullistes. Je demande et je redemande pourquoi ces messieurs ne sont pas saisis à titre d'otage et soumis à des enquêtes sérieuses sur leur degré de complicité avec les massacreurs. On nous accuse d'être pour le massacre indistinct de tous les suspects. Nous avons déjà dit qu'il importait de choisir dans le tas des complices possibles, les complices certains. Mais en même temps, il réclame la prise d'otage et l'exécution d'otage. Et il applaudit à la création de la milice. Pour un homme qui était engagé dans l'Union sacrée en 1914, c'est quand même tout à fait surprenant. Et là, vous parliez de Bainville. Et que serait-il arrivé à l'Action française si Bainville n'était pas mort en 1936. D'ailleurs, la voiture de Léon Blum s'est trouvée coincée dans le cortège et des gens de l'Action française l'ont reconnu, l'ont sorti de la voiture et ont commencé à le tabasser. Mais voilà, Bainville est mort. Bainville était très inquiet des progrès de l'hitlérisme. Il se demandait pourquoi les gens n'avaient pas lu Mein Kampf. Il dit, moi, j'ai lu Mein Kampf, je vois ce que c'est. Donc, est-ce qu'une Action française avec Bainville, un peu plus bainvillienne, n'aurait pas mieux tourné?
C'est possible, c'est possible. Moi, je pense, mais après, on peut jamais savoir quelle aurait été la position de telle ou telle personne à ce moment-là, parce que on se rend compte quand on regarde les trajectoires personnelles, combien elles sont parfois aléatoires, très très difficiles à cerner. Pourquoi un tel s'engage dans la résistance et l'autre finit dans la milice? Il y a parfois des parcours invraisemblable à cette époque, mais moi je pense effectivement que Bainville aurait pu apporter ce qui manquait à Maurras, c'est-à-dire une sorte de lucidité sur des événements. En fait, il y a longtemps, à ce moment-là, que Maurras n'était plus dans la compréhension des événements qui se déroulaient dans son pays. Il y a eu comme une sorte de mur progressivement qui s'est construit autour de lui et qu'il s'est construit lui-même. Ce que vous disiez me...
Sa surdité, de ce point de vue-là,
alors, je pense que sa surdité est emblématique.
Est emblématique,
mais
oui.
Il a un rapport à l'action qui est très
c'est
ambivalent.
Ça,
parce
c'est
que
fondamental. Ça.
On sait, tout le monde sait que le 6 février... Et ce n'est pas une légende, il était dans son bureau de l'Action française à écrire des poèmes. Et Rebattet lui reproche, avec la violence qu'on connaît chez Rebattet, dans les décombres. Et en même temps, il y a cette phrase, dont je ne me souviens plus la référence précise, mais Maurras a dit une fois « Si je n'avais pas été obligé de combattre pour la République, j'aurais aimé, sous un roi, vivre tranquillement comme juge de paix à Martigues. » On croit rêver, alors qu'en réalité, il y avait une passion pour la politique et pour le verbe qu'il a emporté dans un cycle très très tumultueux. Mais moi, je voudrais vous citer une phrase de Maurras qui me paraît fondamentale pour comprendre, pour essayer d'approcher l'itinéraire d'un homme qui est avant tout un poète, parce que l'esthétique pour lui est première, Olivier Dard le disait tout à l'heure, et qui se fourvoie dans la politique d'une certaine manière, mais qui est un platonicien des idées. C'est un texte de 1901 où Maurras écrit « Les beaux-arts consolent jusqu'à un certain point l'aigre maladie de la vie, mais ils la rendent plus pénible lorsqu'elle est à son paroxysme. Seul un refuge est sûr, c'est celui des pures idées, elles seules pourront nous prendre toute l'âme. » C'est très beau. Non mais c'est très beau, mais ce
refuge, il ne l'a jamais choisi en réalité.
Eh bien, d'une certaine manière, il l'a choisi et il ne l'a pas choisi, c'est-à-dire qu'il a été embarqué, parce qu'il le voulait bien, dans cette action française quotidienne et dans cette polémique quotidienne, mais pour lui, la polémique n'était que l'écume d'une mer tumultueuse dont le fond était au fond des idées platoniciennes, une histoire de France totalement revisitée qui n'avait rien à voir avec l'histoire de France réelle, une analyse de son temps qui était de plus en plus déconnectée des véritables problématiques, et donc, oui, un idéalisme pur.
Un idéalisme pur qui s'accommodait de polémique.
D'un verbe poignard.
Oui, et une polémique, mais aussi d'invective.
C'est-à-dire, tout à fait. Oui.
C'est peut-être le style de polémique des années 20, des années 30, Léon Daudet le dit au début de son stupide 19e siècle, les polémiques ad principia ont leur autorité et leur prix, mais elles ne deviennent percutantes qu'en s'incarnant, en devenant polémiques ad personas, du moins qu'en tout vivant. Eh bien, les polémiques ad personas, les gens de l'Action française les ont poussées extrêmement loin. C'est-à-dire, il y avait des appels au meurtre, des cris de haine, et Maurras n'était pas le dernier.
Olivier Dard. Absolument. Maurras est un polémiste absolument redoutable, mais ce qui est presque paradoxal, si vous voulez, chez lui, c'est justement la violence du propos et la relative faiblesse, j'euphémise, hein, de l'action. Je veux dire par là que on parle de Maurras, mais le maurrasisme, c'est le journal, c'est aussi une ligue, des camelots. Tout à l'heure, François Huguenin parlait effectivement de l'immense déception de Rebattet et des autres après le 6 février, mais il y a déjà eu des très sérieuses déceptions dans les années 20, au moment où les combats étaient déjà durs, notamment avec les communistes, où il y a pu y avoir des heurts violents et des meurtres des deux côtés, et notamment de ligueurs, et à aucun moment, si vous voulez, les menaces de Maurras n'ont été suivies d'effet. Je ne dis pas qu'elles auraient dû l'être, mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de tentative de passage à l'acte. Et de ce point de vue, on aurait très bien pu imaginer qu'avec une violence, du discours comme celle-là, on aurait mis sur pied l'équivalent d'escadré, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui. Et là, en réalité, Maurras se contente de la polémique. Le problème, c'est qu'effectivement, un certain nombre de jeunes qui vont le lire, eux vont considérer que, eh bien, il y a la polémique, très bien, mais il faut passer à l'acte, faut aller venger les morts, etc., etc. Et dans le passage, si vous voulez, d'un certain nombre de maurrassiens, d'une partie d'entre eux au fascisme, ce rapport à l'action, François parlait de Rebattet, hein, que vienne enfin le temps de l'action, ce passage à l'action, ou ce non-passage à l'action au sein de l'Action française, est fondamental. Le décalage, si vous voulez, entre l'Action française et la réalité du temps en 1936, il est terrible. Hein. Ni droite ni gauche, le roi. Voilà les affiches de l'Action française au moment du Front populaire, si vous voulez. C'est ça. Bon, alors, il reste effectivement toute une jeune droite, des gens qui vont reprendre
comprendre et redécouvrir d'ailleurs le Maurras d'avant 14. Hein, on parlait de la décentralisation, le jeune Jean-François Gravier, le futur auteur de Paris et le désert français, c'est un des jeunes maurrassiens de l'époque, Raoul Girardin dont vous parliez, etc. Mais au fond, qu'est-ce qu'on célèbre dans Maurras ? On célèbre un magistère intellectuel beaucoup plus qu'une influence politique à laquelle on se raccroche ou on pense se raccrocher. Les temps ont changé par rapport à l'avant 14.
Alors, on célèbre un certain magistère intellectuel et il est vrai que Maurras a joui très longtemps d'un grand crédit, mais il y a eu la guerre, il y a eu le maréchalisme de Maurras, le procès de Maurras. Qu'en est-il de Maurras après-guerre ? Venons-en aux héritiers, pas tout à fait encore aux prétendus héritiers actuels, mais voilà. Est-ce que certains, après-guerre, ont repris le flambeau de Maurras et dans quelles conditions, François Huguenin ?
Alors, il y a eu, je dirais, trois genres d'héritiers. Des héritiers qui avaient baigné juste avant la guerre, quand ils étaient tout jeunes, adolescents quasiment, dans une fascination pour Maurras. C'est ce qu'on a appelé les écrivains hussards de manière un peu... un petit peu, enfin, c'est comme toutes les étiquettes, c'est un peu rapide. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Jacques Laurent disait toujours combien il avait été fasciné par cette école de pensée, que c'est Léon Daudet qui lui avait corrigé son premier article dans un journal étudiant d'Action française et qui lui avait dit « Mon jeune ami, vous enlevez systématiquement le premier paragraphe parce qu'il est toujours mauvais. » Et Jacques Laurent m'avait dit un jour « Depuis, j'enlève toujours le premier chapitre de tous mes romans. » Comme quoi il avait retenu la leçon littéraire. Bon, il y a ceux qui sont réfugiés dans la littérature. Il y a ceux qui ont épousé la posture de réprouvés, qui sont devenus, au fond, des battus de l'histoire et qui sont tombés dans une amertume, comme par exemple un Jean Madiran, qui a été de toutes les vieilles luttes un peu rances de l'extrême droite française, d'après politique ou religieuse de l'après-guerre. Et puis, il y a quand même un personnage fondamental, un penseur et un écrivain remarquable, qui est Pierre Boutan. Pierre Boutan qui, lui aussi, est assez compliqué à suivre. D'abord parce que c'est un philosophe métaphysicien qui n'est pas toujours facile à lire. Et surtout, dans son rapport à Maurras, il y a, à mon avis, une profonde ambiguïté. Il est à la fois lié à Maurras comme à un père. Et ça, c'est assez beau, assez touchant. Et en même temps, ça l'amène à parfois... ne pas vouloir reconnaître qu'il est en train de s'en détacher complètement. Et en même temps, c'est celui qui montre combien il y a d'aporie dans la pensée maurrassienne et qui notamment a une réflexion très profonde sur le pouvoir qui va profondément contre ce monisme du pouvoir tout entier dans les mains du roi et de l'État central que Boutan remet profondément en question. Là, il y a une vraie œuvre, mais en réalité une œuvre qui joue très très peu dans la vie politique parce que autant Maurras a eu beaucoup de lecteurs, je dirais, dans les relais d'opinion dans les années 20 et 30, autant Boutan a été quand même beaucoup moins lu, beaucoup plus confidentiel. Parce que tout simplement, pour ce que vous disiez, le maurrassisme était devenu quelque chose d'inaudible avec son destin historique.
Mais alors en même temps, on trouve chez Pierre Boutan le même grand écart entre la passion des idées, le platonisme, l'ontologie, etc. et la passion de l'invective.
Ah, complètement.
Et Boutan a mis du temps à se défaire de l'antisémitisme. Il s'en est défait à la fin de sa vie. Il a eu ses dialogues à Georges Steiner. Il a été modifié par ce qu'il a vu à la guerre des Six Jours. Reste qu'au moment où Mendès France est au pouvoir, il dit « Français, gare à la dictature juive, où le juif n'a pas répondu à notre question légitime sur la séparation que le vieux pays gallo-romain exige entre les bazars du Caire et la République. » Donc là encore, ses héritiers ont poursuivi l'œuvre du maître jusque dans ses hantises les plus scandaleuses, surtout après tout ce qui s'était passé.
Olivier, oui, alors par rapport à ce que disait François Huguenin, bon, il y a toute l'importance de Boutan, bien sûr, mais il ne faut pas non plus oublier l'importance des années 70, le centenaire de la naissance de Maurras en 1968, où Gilbert Conte est sollicité par Le Monde pour écrire un article sur Maurras et où, au tournant des années 70, va naître ce qu'on
va appeler... paraît.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Ça ne pourrait plus être le cas aujourd'hui, parce que Gilbert Conte ne cachait pas
son
appartenance à la mouvance maurrassienne. Voilà,
et boutangienne particulièrement.
Voilà, boutangienne. Tout à fait. Et au début des années 70, il y a effectivement une tentative pour retrouver ce que certains ont appelé un autre Maurras à travers la Nouvelle Action française, la Nouvelle Action royaliste, etc. Et je dirais que, malgré tout, il est resté une certaine tradition maurrassienne dans un certain nombre de revues littéraires des années même 80 et suivantes, notamment dans des revues comme Réaction, etc. Simplement, je voudrais ajouter un point par rapport à l'influence de Maurras, c'est souligner d'un mot l'importance de son influence à l'étranger. Ce n'est pas une histoire seulement franco-française. À l'étranger, en Europe et aux Amériques, l'influence de Maurras a été importante.
Alors, un dernier mot, et là c'est peut-être moi qui le dirais, sur le néo-maurrassisme actuel, je le dirais parce que je suis moi-même mis en cause. Philippe Corcuff écrit dans son livre sur les années 30 reviennent que établit un parallèle entre mon élection à l'Académie française dans un climat islamophobe et l'élection de Maurras dans un climat antisémite. Évidemment, je suis très surpris par cette analogie, blessé aussi, parce que c'est une manière de dire que les musulmans jouent aujourd'hui le rôle que les juifs tenaient dans les années 30 et dans le discours de Maurras, sauf que, disons, les musulmans de l'Europe modernes ne sont pas persécutés par des croisés chrétiens, ils ne sont pas chassés d'un pays à l'autre, ils ne portent pas de vêtements distinctifs, ils ne subissent pas d'interdiction professionnelle et ils n'ont pas été massacrés par les nazis. Et comme l'écrit Michael Walzer, un universitaire américain de gauche, certains d'entre eux sont les pourvoyeurs les principaux de l'antisémitisme actuel en Europe. Alors, si vous voulez chercher Maurras, des analogies avec Maurras pour faire l'impasse sur l'antisémitisme actuel, c'est, me semble-t-il, c'est plus qu'une erreur, si vous voulez, c'est une impudence. Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez pour finir ?
Je pense que cette manière qu'ont un certain nombre d'intellectuels, avec beaucoup de guillemets, de parler de Maurras, qui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a été une des figures intellectuelles les plus importantes du XXe siècle, sans savoir ce qu'il y a dedans, et de ne plus s'en servir que comme un mot d'insulte, montre la médiocrité d'un certain débat d'idées dans la France d'aujourd'hui. Je vais le dire très gentiment.
Bon, et en même temps, il était peut-être important de réaliser cette émission pour voir, par-delà l'insulte, ce qu'il en était effectivement de l'Action française et du maurrassisme. Merci beaucoup, Olivier Dard. Merci, François Huguenin. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Olivier Dard, Charles Maurras, aux éditions Armand Collin, et L'Action française, François Huguenin. Ce livre est publié dans la collection Tempus. Je crois que c'est chez Perrin, non ?
Absolument, voilà. Merci.
Vous trouverez de toute façon les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Karen Dixen, sa vie, son œuvre. Mes invités seront Dominique de Saint-Perne et Bruno de Cessol. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jehan Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.